Carnet Campagne, bonjour. Nous consacrons ce numéro à une certaine ruralité, ce qui est presque une habitude, voire une évidence dans les carnets de campagne, justement, sauf que je m'emploie le plus souvent possible, non pas à mettre en opposition deux réalités françaises, celle des villes et celle des campagnes, mais à les conjuguer. Alors, plusieurs raisons à cela. D'abord, les problèmes que rencontrent certaines populations urbaines sont proches de ceux vécus par les habitants de la campagne, problèmes de santé, problèmes de mobilité ou d'emploi. Et puis, un jeune de quartier qui sombre dans l'ennui et dans la précarité peut ressembler étrangement à son frère du rural et inversement. Ensuite, villes et campagnes ont tout à gagner à coopérer. Le rural alimente l'urbain, souvent. Parfois, il le loge, ou mieux, il lui arrive de le déloger pour le rendre actif à la campagne. Nous sommes loin de l'image, même si elle demeure réelle par endroit, du village dortoir. Il n'y a aucune fatalité à vivre dans un lieu ou dans un autre à partir du moment où l'on se donne les moyens d'améliorer sa vie. Les conditions opérantes à cette amélioration sont celles que nous rencontrons quasiment dans tous les carnets chaque jour, de la solidarité, du soutien et un sens du collectif. Pardon pour ce rappel. Il est un peu long, mais il me permet de vous annoncer la présence d'un réseau emblématique des efforts déployés à l'intention des habitants des espaces ruraux et qui répond au nom de Famille Rurale. Son président est notre invité du jour.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Dominique Marmier, bonjour.
Bonjour.
Dominique, nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission des carnets de campagne, puisque vous, la campagne, vous connaissez bien.
Oui.
Homme de la terre, de la ruralité franc-comtoise au passage, et vous êtes président de la Fédération Nationale Famille Rurale. Tout le monde ne connaît pas encore les familles rurales, et puis il y a des appellations qui peuvent porter à confusion entre les maisons familiales qui n'ont rien à voir avec famille rurale. Famille rurale est née en 1946.
Je dirais même avant, en 43. Pendant la période, une période difficile pour la France, oui. L'occupation allemande.
46, c'était pas aisé non plus.
C'était quand même la guerre était terminée. Donc, Famille Rurale, on est le premier mouvement familial en France. C'est une association qui est fortement implantée en milieu rural parce qu'on a 2200 associations locales réparties sur l'ensemble du territoire, quasiment présentes sur l'ensemble des départements. Et puis, ces associations sont regroupées en fédérations départementales, qui leur permet de s'organiser parce qu'il y a une grosse fonction employeur avec les activités et les services que nous gérons. Et enfin, il y a une fédération nationale dont j'ai la fierté de représenter. Et donc, cette fédération nationale, elle a plusieurs missions, je dirais. C'est d'accompagner les fédérations départementales, bien sûr, dans la fonction administrative, employeur, etc. Mais c'est surtout aussi un rôle de représentation des familles, représentation des territoires ruraux. Une fonction plus politique parce qu'on participe vraiment à la construction de la politique familiale en France. Et puis, bien sûr, on est le porte-parole des territoires ruraux et des familles qui vivent en milieu rural.
Et vous êtes entendu ?
J'espère qu'on a entendu. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est grâce à des émissions comme la vôtre qu'on peut être entendu. Mais on essaie de faire un lobbying permanent pour être entendu parce qu'il y a une cause à défendre qui est la ruralité qui a été mise à mal ces dernières années. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter.
On va le faire tout de suite si vous voulez, mais avant quand même une petite explication sur les fonctions et les services proposés par Famille Rurale.
Famille Rurale, c'est né en 43, comme je vous l'ai dit. Puis les familles en milieu rural, c'est une période particulièrement difficile parce qu'il n'y avait pas de réseau d'approvisionnement de l'alimentation, des produits alimentaires. Et puis tout de suite, elles se sont rendues compte que si on attendait tout des pouvoirs publics, des fois on attendait longtemps. Donc elles se sont dit, on va se constituer une association.
C'est marrant, ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé complètement. Donc on va se constituer une association et puis ensemble, on va être plus fort pour s'organiser. Alors en 43, bien sûr, c'était pas la même problématique qu'aujourd'hui. Et puis maintenant, la demande, après, elle est nombreuse dans les territoires ruraux. Parce que comme partout, les familles, elles ont envie de pouvoir concilier vie familiale, vie professionnelle. Alors pour ça, ça passe par des centres de loisirs pour garder les enfants, des crèches, ça passe par du service à la personne, l'aide à domicile. Et puis bien sûr, tout un ensemble aussi de services donc, que nous gérons, des centres périscolaires, etc. Mais toute une activité aussi, animation des territoires ruraux, donc accès à la culture, musique, sportive, etc. Vraiment, ce qui correspond à l'attente des familles sur les territoires ruraux. Donc, c'est 17 000 salariés sur l'ensemble du territoire pour faire fonctionner ces services. Mais c'est surtout 40 000 bénévoles qui, au quotidien, agissent pour améliorer le quotidien des familles.
Dominique Marmier, je rappelle pour les personnes qui ne le sauraient pas, il y a eu une étude faite sur l'organisation de la population en France par un sénateur qui s'appelle Alain Bertrand. Je ne suis pas de sa, membre de sa famille, je le dis à chaque fois. Sénateur de Lozère. Enfin, je ne sais pas s'il est encore élu, parce qu'il y a quelques années, il a fait ce rapport, avec une division, une distinction entre les grandes agglomérations, le tissu urbain, le périurbain, le rural et l'hyper-rural. Ouais. L'hyper-rural, c'est 5,3% de la population qui vit sur 24% du territoire. C'est-à-dire, il y a un quart du territoire national qui est habité par 3 300 000 personnes, c'est-à-dire un désert. On est parfois à 5 habitants au kilomètre carré. C'est là où il y a urgence, c'est là où il faut agir à tout prix.
Disons, vous avez bien fait de recibler le tableau, mais je dirais plus globalement, comme les territoires ruraux, c'est quand même 27 millions d'habitants. Donc on parle quand même d'une population importante, sur 43% du territoire. Donc il y a trois catégories différentes. Et là, si on évoque la dernière catégorie, qui est la plus isolée, effectivement, c'est là que le sentiment d'abandon est le plus important. C'est là que les difficultés économiques aussi sont le plus prégnantes. Et c'est là que les problèmes de mobilité et d'accès aux services publics est le plus difficile. Mais ça ne doit pas cacher quand même le problème qui est sur l'ensemble des territoires ruraux le même. Ce sentiment d'abandon que je viens d'évoquer, il est quand même le même un peu partout. Et ce que je voudrais dire, c'est que suite à l'enquête que nous venons de faire avec l'IFOP sur les perspectives puis les ruralités puis le regard qu'ont réellement les ruraux sur leur territoire, c'est pas simplement un sentiment d'abandon. C'est un réel abandon des territoires ruraux. Les services publics abandonnent de plus en plus ces territoires. C'est la fermeture des guichets dans les préfectures, c'est la fermeture des postes, c'est la fermeture des trésors, c'est la fermeture des gares aussi qui ferment les unes après les autres. Puis c'est aussi les services de proximité, plus largement. C'est les commerces. La médecine aussi, les soins et l'accès aux soins qui est de plus en plus difficile. La mobilité qui est un problème prégnant, c'est aussi les écoles qui ferment pour se regrouper. Donc ce sentiment d'abandon quand même, il pose vraiment problème aux familles qui vivent dans les territoires parce que c'est un réel sentiment d'abandon, d'être les oubliés des politiques publiques.
Dominique Marmier, président de la Fédération nationale Famille Rurale. Invité des carnets de campagne avec ce tableau auquel évidemment on souscrit parce qu'il est très négatif sur la disparition des services, sur la paupérisation d'une certaine population, sur le vieillissement de cette population, disparition de services en premier, l'éducation et la santé. Quelle solution y a-t-il?
Vu le constat qu'on vient de faire assez noir, avec le sentiment d'abandon qui est réel. D'un autre côté, c'est paradoxal. Il y a une véritable satisfaction de vivre dans les territoires ruraux. Parce que dans l'enquête, quand on demande tout de suite, le premier sentiment qu'ils ont pour les habitants des territoires ruraux, c'est 73% répondent, on est satisfait de vivre dans les territoires ruraux. Parce qu'on a la nature, parce qu'on a la tranquillité, parce qu'on n'a pas ce problème aussi de transport, des fois, la vie trépidante de la ville, parce que c'est l'environnement qui est correct. Donc, il y a un vrai sentiment de satisfaction. Donc, c'est paradoxal avec ce que je viens de dire tout à l'heure, mais c'est déjà une réalité. Puis quand on demande à l'ensemble de la population, pour vous, le cadre de vie idéal, ce serait quoi? 81% répondent, vivre dans les territoires ruraux. Et quand on leur pose aussi une question, si vous, demain, vous deviez créer une entreprise, où est-ce que vous l'installeriez? 60% disent, on l'installerait en territoire ruraux. Tout ça pour dire qu'en même temps, il y a ce sentiment d'abandon, mais il y a une véritable opportunité de développement. Et le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que avec les nouvelles technologies, ça peut être une solution pour justement développer ces territoires ruraux. Je pense par exemple à l'accès aux soins. Avec la télémédecine, les nouveautés technologiques permettraient d'accéder aux soins, même dans les territoires ruraux les plus reculés.
Ça ne va pas tout réparer quand même.
Mais ça peut répondre quand même à beaucoup de choses. Je pense aussi au télétravail. Nous, à Famille Rurale, on a des projets, parce qu'on a souscrit un projet européen avec un financement européen, pour créer des espaces, des tiers-lieux, qu'on appelle ça, dans les territoires ruraux. Donc ces tiers-lieux, c'est des lieux d'accueil, d'animation, mais c'est également et surtout des espaces de coworking, donner la possibilité à des familles, à des gens qui veulent s'installer dans les territoires ruraux, de pouvoir travailler. Mais ça passe, bien sûr, pour créer ces tiers-lieux avec un numérique, avec une couverture numérique à haut débit sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'est une forte revendication qu'on a. Je sais que c'est une priorité des pouvoirs publics, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est d'aller beaucoup plus vite. Il y va quand même de la survie des territoires ruraux.
Bien sûr. Mais Dominique Marmier, des organismes s'investissent déjà sur ces sujets, développement numérique, accueil de nouvelles populations, développement des infrastructures, télétravail, espaces de coworking, Fab Lab. Il y en a de plus en plus dans le milieu rural. La question est toujours la même. Comment associer vos efforts à ceux d'autres organismes, d'autres collectifs ou d'autres associations? Ça peut être l'accueil paysan, ce que fait l'ADR. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec l'ADR. Le CIVAM, il y a tellement d'organismes. Pourquoi pas additionner tous ces savoir-faire?
Là, c'est une bonne remarque. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, il y a une vraie révolution technologique qui permet l'accès à beaucoup de choses. Mais pour autant, il y a une vraie fracture numérique. Déjà parce que la couverture n'est pas assurée partout. Parce que aussi, beaucoup de familles, et nous, on s'en aperçoit bien dans notre réseau, sont pas forcément équipées. Parce que ça coûte cher. Et puis après, même si elles sont équipées, savoir l'utiliser correctement, c'est encore autre chose. Donc on estime qu'il y a 23 à 25% de la population qui est mise de côté numérique. Et ça, ça peut faire une fracture qui peut être très néfaste pour l'ensemble de la population. Donc là, on n'a pas le droit de laisser des gens au bord de la route. Donc ça, c'est déjà une priorité qu'il faudrait se donner. C'est là que je vous rejoins. C'est ce qu'on essaie de faire dans les tiers-lieux que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut réunir les pouvoirs publics, les associations, mais également les acteurs privés. Là, je pense que si on arrive à faire une symbiose entre tous ces acteurs qui tous ont un même intérêt, c'est-à-dire développer les territoires ruraux pour rendre la vie plus agréable et pourquoi pas développer l'emploi, bien sûr, l'activité économique sur les territoires ruraux, ça pourrait être une solution. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire à Famille Rurale parce qu'on a décidé de lancer donc un fonds de dotation pour être en capacité de financer des projets innovants. Mais ce qui est intéressant dans ce fonds de dotation, c'est qu'on va mettre des acteurs justement publics et privé et associatif autour d'une même table pour dire ensemble on peut être plus fort. Et ça peut être une révolution dans le type d'organisation de développement des territoires.
Ah ben, on vous soutient absolument, donc vous n'hésitez pas à nous transmettre les informations au fur et à mesure de l'évolution de la création de ce fonds de dotation. Si vous voulez avoir des informations, famillerurale.org, il y a une page Facebook de la Fédération Nationale. Et puis ce qu'il faut retenir de ce sondage IFOP, c'est en particulier, parce que c'est frappant, mais ça correspond et ça confirme de précédents sondages qui avaient déjà été commandés sur l'estime que les Français, en général, pouvaient avoir de la campagne comme lieu idéal de vie. 8 Français sur 10 adhèrent à cette image-là de la campagne. Mais au lieu de simplement adhérer, on a une fraction de cette population qui innove et qui vient s'installer à la campagne. Pourquoi à la campagne? Parce qu'il y a de l'espace. Et comme disait un de nos premiers interlocuteurs, nous sommes espacés, non pas oubliés, mais espacés. Donc nous avons la possibilité, les moyens d'accueillir d'autres personnes. Merci Dominique Marmier.
Merci, merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Sur le site de Famille Rurale, vous avez trouvé une foule d'informations, dont une qui alerte plusieurs organismes ou fédérations en ce moment, comme la CLCV, Association de Défense des Consommateurs, l'UFC Que Choisir, les Amis de la Terre, Alta, l'Obsolescence Programmée, Famille Rurale. Demain, jeudi, les ministres des 28 États membres se prononceront sur le sort qui sera réservé à la garantie légale de conformité. De quoi s'agit-il? Lorsque vous achetez un produit, celui-ci est sous garantie du vendeur pendant 2 ans. S'il y a problème, le vendeur a un délai maximal de 6 mois pour apporter des preuves et prouver que le produit n'était pas défectueux lors de son achat. Cette législation permet aux États membres qui le souhaitent de mettre en œuvre des dispositions plus protectrices, option choisie par la France avec la loi Consommation 2014. Or, cette disposition devait être étendue aussi à l'ensemble de l'Union européenne. Manque de chance, le Parlement européen et le Conseil ont adopté pour une durée maximale d'un an ce principe, et donc ils ont amputé de moitié ce droit accordé aux consommateurs. Ça sous-entend qu'au-delà d'un an, il faut que vous apportiez vous-même les preuves de la malfaçon, de la défectuosité du produit. Cela signifie surtout qu'on participe à cette fameuse et fâcheuse obsolescence programmée, et on tourne le dos par la même occasion à une économie circulaire dont nous ne cessons de vanter les mérites et même la nécessité dans les carnets. Alors je vous signale une réflexion cette fois élargie sur l'avenir de notre société et les mesures d'innovation sociale qui répondront aux défis les plus urgents. Cette réflexion sera au centre du colloque national l'innovation au défi social qui se tiendra le 19 décembre prochain à Bobigny, un événement qui veut être le point de départ d'une construction collective à laquelle tout le monde peut participer indépendamment des nombreux experts invités. Quel type d'innovation? Ça peut être de nouvelles formes de travail au profit de l'insertion, ça peut être celles menées dans 10 territoires sous le nom de territoire zéro chômeur de longue durée, sont des offres de stages professionnels pour des élèves issus de milieux défavorisés, comme cela peut concerner l'aménagement d'espaces de travail partagés. L'entrée gratuite, il est toutefois impératif de s'inscrire par avance. 19 décembre, immeuble européen 3 de Bobigny, il y a un lien pour les inscriptions, nos pages d'émission. La semaine prochaine, nous serons dans l'heure, je vous conseille, et vous pouvez toujours nous écrire. Nous prenons même les infos de dernière heure. Ah ah.